Chapitre 38. Le monde fascinant du tatouage maori. Coincé dans son bureau sans fenêtre, Lorenzo Santos reposa le livre dans lequel il s'était plongé une bonne partie de l'après-midi. Il avait appris une foule de choses intéressantes, mais aucune susceptible de faire avancer son enquête. Frustré, il se frotta les paupières et rejoignit le couloir pour s'offrir un soda au distributeur. Out of order. En panne. Manquait plus que ça. En colère, il abattit son poing sur la machine dont la pancarte semblait le narguer. Y a-t-il encore une seule chose qui fonctionne correctement dans ce pays? Pour se calmer, Santos sortit dans l'arrière-cour avec l'intention d'enquiller quelques paniers. Le soir tombait doucement sur Brooklyn. À travers le grillage, il regarda le soleil qui se couchait dans un ciel rougeoyant. Il attrapa le ballon de basket et tenta de loin un premier tir. Le ballon toucha le cercle métallique, hésita un moment, puis retomba du mauvais côté. Décidément pas de veine. Son enquête aussi piétinait. Malgré l'aide de la police scientifique, il n'avançait guère. En fin de matinée, il avait pourtant reçu un rapport détaillé rédigé par un expert en éclaboussure de sang. Le spécialiste y interprétait la scène de crime de façon très pertinente, reconstituant avec précision le déroulé de l'affrontement. Drake Decker avait été tué en premier, éviscéré par le Maori, dont on avait retrouvé les empreintes sur le couteau de combat. Le Maori était mort ensuite, trucidé par Sébastien Larrabie avec un morceau de verre. Quant aux empreintes de Nicky, elles avaient été relevées à plusieurs endroits, et notamment sur la queue de billard qui avait crevé l'œil du géant avant sa mort. Mais cet enchaînement ne disait rien des motivations des protagonistes, ni de l'identité du troisième homme. Le type ne figurait sur aucune base de données policières. Plus le temps passait, plus Santos était persuadé qu'en dépit de son tatouage, l'homme n'était pas polynésien. Le policier avait sollicité l'aide de Karen White, l'anthropologue du NYPD qui travaillait au sein du 3e Precinct. Mais elle ne l'avait pas encore rappelé. Comme il attendait beaucoup de l'identification de ce tatouage, il avait essayé de mener ses propres recherches, sans résultat. À présent, Santos enchaînait les paniers, retrouvant peu à peu confiance en lui, se libérant de la tension dans laquelle le plongeait cette enquête. Plusieurs fois dans sa carrière, il avait eu des intuitions à propos d'une affaire en faisant un footing ou en jouant au basket. En plein effort, certains éléments trouvaient un éclairage nouveau. Des faits en apparence isolés se connectaient de façon limpide. Pourquoi pas cette fois-ci? Le flic essaya donc de considérer les événements sous un angle neuf. Et si la clé du mystère tenait moins dans l'identité du Maori que dans la personnalité de Drake Decker, que savait-il vraiment du propriétaire du boomerang? Drake était une petite frappe dont la famille était ancrée dans la criminalité depuis au moins deux générations. Son père, Sirius, tirait perpète à Rikers Island, tandis que son frère cadet, Memphis, était en fuite depuis 5 ans pour échapper à une lourde peine de prison dans une affaire de stupéfiants. Decker touchait lui aussi à la cam, et son bar était un tripot plus ou moins clandestin, mais les flics du coin avaient toujours fermé les yeux sur ses activités car Drake les arrosait de ses bons tuyaux. Mais quel lien entre cet aigre fin et les Larrabee? Jérémy, peut-être? Santos connaissait le fils de Nicky, le gamin ne l'appréciait guère et l'animosité était réciproque. Il tira un dernier panier et revint dans son bureau, décidé à tenter une recherche croisée. Dans son ordinateur, il entra les deux noms et lança le programme. Au bout de quelques secondes, le logiciel délivra le résultat. Il y avait une occurrence. Elle remontait à moins d'un mois, le samedi de la première semaine d'octobre. Ce soir-là, Drake avait été conduit au poste après qu'un de ses clients s'était plaint d'avoir été tabassé et menacé d'une arme. On l'avait relâché rapidement, sans retenir aucune charge contre lui. Quant à Jérémy, il avait été conduit au commissariat pour le vol d'un jeu vidéo dans une galerie marchande. En croisant les deux rapports de police, on constatait que Drake et l'adolescent avaient partagé la même cellule pendant 14 minutes. Était-ce la première fois qu'ils se croisaient? Se demanda le flic. Santos acquit soudain la conviction que le nœud du mystère résidait dans ce petit quart d'heure. Quelque chose s'était passé ce soir-là entre Decker et Jérémy. Une conversation? Un pacte? Un affrontement? Quelque chose de suffisamment important, en tout cas, pour mettre en branle un enchaînement de circonstances qui aboutirait 3 semaines plus tard à la découverte de 2 cadavres gisant dans un bain de sang.